Bonsoir, le plaisir de présenter ces regards critiques se nuance déjà de la mélancolie, voire de la tristesse, que ce soit la séance de conclusion. Je crois qu'on est tous très reconnaissants à Jean-Luc Homoli de nous avoir emmenés dans ce voyage aux frontières, puisque chacun des films a décrit un des frontières ou un des passages, et que à chaque fois, avec des films que l'on découvrait parfois, avec des films que l'on connaissait ou que l'on croyait connaître déjà, c'était à chaque fois, grâce à toi, une découverte. Et je crois qu'il faut unir dans cet hommage, même si elle va m'en vouloir beaucoup, Catherine Blangonnet, qui est donc a conçu cette proposition et qui a vraiment très justement, je pense, et c'est vraiment important d'en avoir la leçon, répondu à une demande aussi qui est très forte, parce que je crois que l'amour du cinéma aujourd'hui plus que jamais, alors qu'on s'interroge sur les nouvelles formes de la cinéphilie, exige de pouvoir reprendre, restituer ce qu'est son histoire, et que ce cheminement et ce rendez-vous avec une pensée aux prises, pourrait-on dire, ou en harmonie avec différentes œuvres, était une chose qui était vraiment un moment très important pour nous et dont on va tirer, j'espère, toutes les fructueuses leçons. Donc, évidemment, à très vite, cher Jean-Louis. Et peut-être que malgré tout, après quelque chose d'aussi formidable, il y aura une suite. Catherine va peut-être présenter aussi ensuite la suite.
C'est Catherine qui va parler. Voilà. Pense celui-là. Il marche aussi celui-là.
Oui, je voulais juste dire deux mots parce que c'est la dernière séance avec Jean-Louis Homoli. Mais ce n'est pas la dernière séance de regard critique, puisque ce cycle va continuer à partir de la rentrée en octobre, le 6 octobre précisément. Et cette fois-ci avec un cycle confié à l'historienne Sylvie Lindeberg, que vous connaissez peut-être, mais que vous découvrirez peut-être aussi à cette occasion. Et on va travailler sur les documents d'archives, sur la notion d'archives, prise et reprise des archives. Donc ça, c'est à partir du 6 octobre et jusqu'au 12 janvier. Toujours les lundis, si possible. J'avais deux mots à dire avant de passer la parole à Jean-Louis à propos de la projection de ce soir. D'une part, je voulais remercier Thibaut Cavalier de l'Institut de Recherche et d'Innovation, l'IRI, puisqu'il va nous aider à utiliser le logiciel Ligne de Temps pour analyser Close-Up. Enfin, une partie, en tout cas. Et puis, surtout, je voulais vous présenter mes excuses pour la copie que nous allons vous montrer ce soir, qui est un DVD dont la couleur est un peu passée, qui aurait intérêt à être montré en noir et blanc, mais on n'ose quand même pas, parce que c'était la seule copie sous-titrée en français que j'ai pu trouver à Paris. Voilà. Donc, je vais te passer la parole.
Merci. Je rends ça. Voilà. Oui, bonsoir. Donc voilà, dernière séance de ce cycle. Alors j'ai choisi de manière très comme ça arbitraire pour conclure nos rencontres un film magnifique d'Abbas Kiarostami. Ce film s'appelle Close-up. Tout le monde sait que close-up, ça veut dire quelque chose comme gros plan ou plan resserré. Et ça veut dire aussi fermé quelque part, hein, bien sûr. Et ce film date de 1990. Alors pourquoi montrer ce film en clôture? Bon, d'une certaine manière, il me semble, enfin en tout cas c'est ce que je me dis, il me semble que ce film rassemble, refait circuler, reboucle une grande partie de ce que j'ai pu dire et de ce que vous avez pu vous-même voir dans les autres films du programme. Alors, on va quadriller très vite cette fonction, disons, majeure de ce film, conclusive majeure. D'abord, c'est un film qui pose explicitement la question de la place du spectateur, un thème, un motif que j'ai eu l'occasion de ressasser au cours de ces séances. La place du spectateur, on pourrait en un premier temps croire que c'est la place du plaisir ou la place de la jouissance agréable. Pas du tout. Erreur. La place du spectateur est celle de la difficulté. Difficulté de voir, de comprendre, d'entendre, difficulté d'entrer dans le film et d'être dans le film. Alors bien sûr, la plupart des films se jouent de cette difficulté et ne la font pas jouer, par conséquent, ne la prennent pas en compte. Quelques films le font. Et Close-up, je crois que c'en est le propos précis. Voilà. Ce film est un défi jeté, lancé à ses spectateurs, à son spectateur. Quand je parle de place du spectateur, c'est évidemment une fonction spectateur qui peut coïncider, et qui coïncide la plupart du temps d'ailleurs, avec les différents spectateurs ou spectatrices qui sont dans une salle. Mais évidemment, c'est une fonction comme une fonction arithmétique ou une fonction algébrique, donc quelque chose de plus abstrait hein, qu'un spectateur concret désigné, nommément en tant que tel. Alors, vous allez le voir, je dis défi, c'est comme une partie d'échecs qui est jouée avec nous, spectateurs, dans ce film. Kiarostami occupe une place de grand maître, si j'ose dire. Et évidemment, il nous invite à relever ces défis, et c'est très difficile. Alors, j'ai défini à nombreuses reprises la place du spectateur comme la place de questions sans réponse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est joué? Est-ce que c'est pas joué? Est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est le théâtre? Est-ce que c'est la fiction? Est-ce que c'est le documentaire? Est-ce que c'est mis en scène? Est-ce que c'est saisi sur le vif? Toutes ces questions qui sont des questions que nous nous posons presque toujours devant beaucoup de films, nos questions, ces questions, le cinéma nous apprend qu'elles n'ont pas de réponse, parce que précisément elles n'ont pas de réponse au cinéma. Et c'est ça qui est, je dirais, beau et intéressant. Et d'une certaine façon qui nous libère, c'est que dans la séance de cinéma, le spectateur peut en effet, chose qu'il a rarement l'occasion de faire dans la vie réelle, peut concilier les contraires par exemple, peut surmonter le principe de non-contradiction, peut accomplir une série d'opérations mentales qui ne sont ni familières ni utiles dans la vie sociale, dans la vie dite réelle. Alors voilà, l'expérience de cinéma, c'est celle de ce jeu. La notion de jeu est très importante. Il y a un aspect ludique. Je parlais d'un grand maître qui jouait aux échecs avec les spectateurs. Nous allons jouer avec lui et il va jouer avec nous. Il va se jouer de nous tout aussi bien. Alors ça, c'est une première dimension qui concerne la place du spectateur. Évidemment, on peut, et je vais sans dévoiler le secret de ce film qui précisément est mystérieux, je vais quand même préciser que la question qui est posée constamment, c'est celle de la place du cinéma dans le monde d'aujourd'hui. Alors le film date de 90, donc il est relativement contemporain, même si beaucoup de choses se sont passées entre aujourd'hui et 90. Mais cette question est posée. À quoi sert le cinéma? À quoi nous sert le cinéma? Sur quoi travaille le cinéma? Alors l'hypothèse de Kiarostami, qu'on va retrouver d'ailleurs dans les films postérieurs de ce grand cinéaste, l'hypothèse de Kiarostami, c'est que le cinéma sert tout simplement à nous connaître, nous les uns les autres, à entrer en contact les uns avec les autres. Comme si, dans les sociétés qui se sont dessinées après la Deuxième Guerre mondiale, après, je rappelle que dans ce programme, nous sommes passés par là. Nous sommes passés par le cinéma de 1945, de l'après-guerre, le cinéma de la découverte des camps, le cinéma de la refondation utopique du geste cinématographique. Je pense au film de Houston magnifique qui s'appelle, évidemment, titre qui a beaucoup de sens, « Let there be light », que la lumière soit après l'horreur. Eh bien, dans le cinéma qui se fait après cette coupe terrible, cette coupure terrible dans l'histoire du monde qu'a été la Deuxième Guerre mondiale et précisément l'extermination des Juifs d'Europe. Alors évidemment, quelque chose est ébranlé, je dirais profondément, dans notre propre conception de nous-mêmes, d'une certaine manière. Comment nous penser les uns avec les autres? On voit bien comment revient d'une manière ressassante, avec une insistance terrible, ne serait-ce qu'un seul mot, le mot « ensemble ». Qu'est-ce que veut dire encore ce mot aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est qu'être ensemble? Qu'est-ce que c'est que vivre ensemble? Il faut mettre des points d'interrogation partout. Alors, le cinéma, en tout cas dans l'hypothèse Kiarostami que je fais mienne, le cinéma, c'est encore la possibilité de créer ou de recréer cette dimension d'être ensemble qui, semble-t-il, fait largement défaut hors du cinéma. On en reparlera après la projection. Alors voilà, donc vous verrez comment la place du spectateur est mise à l'épreuve, le chemin du spectateur est mis à l'épreuve pour arriver à penser que l'autre, nous pouvons être avec lui. C'est la conclusion de ce film magnifique. Je renouvelle les excuses de Catherine Blangonnet, la copie malheureusement que vous allez voir, est en fort mauvais état. Mais le film est magnifique quand même. Les grands films peut-être survivent aux mauvaises copies. Bonne projection. Je vais donner quelques mots de commentaire sur la topographie de ce film, assez complexe, vous l'avez remarqué. Et je demanderai à Thibault Cavalier de Liri de bien vouloir me donner un coup de main pour que je vous montre un échantillon du travail qui a été fait pendant un an pratiquement à l'intérieur de l'Institut de recherche et d'innovation donc du Centre Pompidou, dirigé par Bernard Stiegler. Un travail à l'occasion de l'exposition Kiarostami et Ricci, qui donc est maintenant évidemment conclue, mais qui nous a permis aux uns et aux autres de travailler en détail, grâce à ce logiciel Ligne de Temps, sur, je dirais, le texte le plus fin des films de Kiarostami, et j'ai choisi de manière un peu délirante de travailler sur Close Up, qui est un film qui me fascine et qui me pose toujours beaucoup de problèmes. Voilà. Donc on verra un peu, enfin un petit peu de ce qu'on a pu faire. Cela dit, pour ceux que ça intéresse, ce travail est toujours actuellement en ligne, encore pour quelques mois, sur le site du Centre Pompidou, IRI, I-R-I. Voilà, je pense que si vous allez sur ce site, vous pourrez trouver la référence à Ligne de Temps et à l'exposition Kiarostami et Ricci, et à ce que nous avons appelé des regards signés. Voilà. Alors, il y en a un de Bergala, un de Youssef Ishakpour, un de Raymond Bellour, si je ne me trompe, et puis le mien. Voilà. Donc, alors évidemment, c'est un film, vous l'avez remarqué, assez difficile à saisir. Non, je veux dire, on peut le prendre à bras-le-corps est difficile. Voilà, mais on va quand même essayer. Alors, je vous propose, à titre comme ça un peu ludique, de commencer par la fin. Vous avez remarqué que dans ce film, on joue avec les temporalités, on joue avec la chronologie. Alors, commencer l'analyse par la fin, après tout, ça n'est que jouer le jeu du film. Pourquoi commencer par la fin? Cette dernière longue séquence de la libération de Sabzian de ce qu'on imagine être sa prison et de la rencontre entre le faux et le vrai Mac Balbaf est évidemment extrêmement intéressante, parce qu'elle est traitée d'une manière absolument symptomatique, qui renvoie au principe d'écriture générale du film. Je veux dire par là qu'elle est traitée pour empêcher le spectateur de tout entendre et de tout voir. Il est clair que d'autres cinéastes auraient filmé ça tout autrement. C'est quand même le climax du film. C'est un moment que peut-être on attend, en tout cas, qui est un moment fort très émouvant, où doit se passer quelque chose de puissant. Et Kiarostami choisit, de manière évidemment tout à fait concertée et délibérée, de filmer ça de loin, à travers une série d'obstacles à la vue, les camions, les véhicules, les jeeps, les cars, toute une série de choses qui nous masquent, en grande partie la scène en question, ou en tout cas qui la fragmente, qui lui ôte toute continuité, et donc d'une certaine façon toute dramaturgie. Et évidemment, cette suite d'obstacles posés à la vue est en quelque sorte redoublée ou renforcée par le fait que, dès le début, l'ingénieur du son dit « Le micro-cravate de M. Mac Balbaf ne marche pas, il a des faux contacts ». Et donc, vous avez évidemment entendu le son de cette séquence haché, coupé de silence, interrompu. Donc, un son qui ne restitue pas lui non plus ni la continuité de la situation, ni une construction dramatique quelle qu'elle soit. Alors, évidemment, première question qui nous vient à l'esprit, est-ce que cet accident est un accident réel du tournage, ou est-ce qu'au contraire c'est un jeu de plus, je dirais, que Kiarostami joue avec nous, en nous faisant croire à cet accident, mais en réalité en nous imposant une disparition intermittente du son.
Et je le répète, disparition intermittente du son qui redouble l'intermittence de l'image. Hein. Nous avons devant cette scène un regard intermittent. Je ne sais pas qui a eu l'idée d'allumer cette lampe, moi je me portais très bien sans, mais enfin c'est pas grave. Donc, alors voilà, évidemment tout spectateur un peu comme ça affûté, observateur, etc., tout spectateur, disons tout simplement, aura observé que ces coupures de son, par exemple, se poursuivent au-delà du plan séquence de la sortie. Le plan séquence de la sortie est évidemment un seul plan, hein, selon le principe du montage interdit. Tout doit se passer dans une seule continuité. Je redis que cette continuité est perturbée, elle est hachée en permanence d'occultation du visible et de suspension ou de suppression du son. Donc c'est une continuité discontinue, certes, néanmoins c'est un seul plan. Hein, jusqu'au moment où le vrai et le faux Macbalbaf montent sur la moto et où la moto s'en va. Et là, coupe et raccord. Raccord sur la moto filmée de l'intérieur d'une camionnette qui va suivre cette moto ou l'accompagner. Et il va même y avoir des plans assez sophistiqués à la Kiarostami où on va voir la moto apparaître dans le rétroviseur de la camionnette. Donc la moto est à la fois devant et derrière, si j'ose dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des coupes. Et s'il y a des coupes, ça veut dire qu'il y a interruption du tournage. Et s'il y a interruption du tournage, ça veut dire qu'on peut remplacer le micro HF, le micro cravate de M. McMahon par un meilleur, ou en tout cas qu'on peut prendre le son autrement. Donc la persistance de cet effet de coupure de son à travers un découpage, tout simplement, me dit à moi, spectateur, clairement, qu'il s'agit là d'une feinte, d'une ruse, d'une astuce, d'un jeu mené par Kiarostami. Alors pourquoi ? Pourquoi ? À quoi ça rime, si j'ose dire. Bon, bien sûr, l'idée de casser la sentimentalité liée à ce type de situation, ça, je pense que Kiarostami l'a voulu vraiment pour ça. Mais je crois qu'il y a autre chose qui apparaît là et qu'on va retrouver, bien sûr, dans le corps du film. Ce qui apparaît, c'est simplement que la place du spectateur est la place d'où il est difficile de voir et difficile d'entendre, comme je le disais en introduction, et donc de renvoyer le spectateur, au fond, à ses limites, à ses impuissances, si j'ose dire, au fait qu'il ne maîtrise pas la situation. D'ailleurs, la scénographie de cette séquence, c'est que personne ne maîtrise la situation. Sabzian est dans les sanglots, Macbalbaf tente de le ramener un peu comme ça, de le tenir, de faire en sorte qu'il se tienne. C'est très beau le moment où ils arrivent devant la fameuse porte blindée de la famille Anka, et où Sabzian est en larmes et où Macbalbaf lui demande: quel jour sommes-nous aujourd'hui? Et ça fait combien de jours que tu es venu ici? Et donc il essaie quand même de le sauver, au sens de ne pas le laisser se perdre dans un torrent de larmes. Alors voilà, donc il y a cette critique en acte de ce qu'on pourrait appeler le trop-plein de sentiments, hein, qui inévitablement est lié à cette rencontre très, très forte. Mais il y a aussi, donc, je le disais, l'idée que il faut renvoyer le spectateur à sa place, et sa place est celle d'une non-adéquation, d'une non-maîtrise, d'une non-puissance. Le spectateur n'a pas la toute-puissance de voir et d'entendre. Et le cinéma est là pour le lui rappeler. Alors, pour ceux qui ont suivi ces séances, j'ai constamment, en tout cas très souvent, je crois, insisté sur le fait que le cadre est un cache, pour reprendre la formule majeure d'André Bazin, et que par conséquent, ce que nous voyons n'est qu'une part du champ visible, que le fait de dissimuler ou de cacher, donc de ne pas montrer, est absolument constitutif du geste cinématographique. Filmer, c'est ne pas montrer, ne pas tout montrer, ne montrer qu'une part du tout. Et évidemment, on retrouve là cette logique, puisque ce qui est mis en œuvre, c'est une partialisation, hein, c'est une découpe, on pourrait dire, d'un ensemble. La scène ensemble existe, elle ne nous est montrée que fragmentairement. Et donc la conscience nous est en quelque sorte imposée du caractère fragmentaire des représentations, et donc nous sortons de l'idéologie d'un visible total ou totalitaire. Voilà. Alors cette première remarque, je la raccorde évidemment avec un des moments enfin un des moments, un des principaux systèmes que le film met en œuvre et qui ne vous aura pas échappé, c'est-à-dire les deux séquences en rime en quelque sorte, hein, les deux séquences en parallèle, celle du pré-générique qui dure environ 15 minutes, et puis ensuite celle de l'arrestation de Sabzian à l'intérieur de la villa des Anka. Alors évidemment, ces deux séquences s'emboîtent l'une dans l'autre et on verra tout à l'heure dans Ligne de temps comment elles peuvent être superposées littéralement l'une à l'autre puisqu'elles sont synchrones. Pardon, Thibault.
J'ai une toute petite question.
Ah, d'accord, ok. Ok. Donc, pardon, excusez-moi pour cet aparté. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les 15 premières minutes, nous ne savons pas encore, nous spectateurs de ce film, sauf si on l'a vu déjà, hein, si on le revoit, nous ne savons pas encore que tous les personnages que nous voyons, le journaliste, le chauffeur de taxi, le père de famille, les soldats, et même celui qui va être arrêté et qu'on ne fera qu'entrevoir, Sabzian, nous ne savons pas qui ils sont littéralement. C'est-à-dire que ce pourrait être, et pourquoi pas, des comédiens, ou autre chose. Ça n'est seulement que 15 minutes après le début du film, donc au moment du générique, hein, sur la presse qui imprime l'article en question, que nous allons avoir une précision très importante. Les noms des personnages sont les noms des personnes, c'est les mêmes, et il y a écrit dans leur propre rôle. Et donc nous découvrons dans l'après-coup, en quelque sorte, après avoir vu 15 minutes de film, nous découvrons dans l'après-coup que c'est un documentaire, au fond, hein, que les personnes qui sont là filmées sont les vraies personnes à qui est arrivée réellement cette mésaventure. Bien. Alors, évidemment, c'est une découverte assez décisive et qui, d'une certaine manière, renverse la première impression qu'on a pu avoir, celle d'une fiction. Bon, quelque chose d'autre se passe là, qui n'est plus tout à fait une fiction. Certes, c'est une fiction, au sens où on reconstitue, ça devient clair à ce moment-là, un fait divers qui s'est véritablement déroulé, et on comprend bien que le cinéma ne peut arriver qu'après coup, hein, chose que j'ai déjà dite et redite, le cinéma arrive après et reconstitue ou fait raconter ou fait narrer la chose qu'il a, par définition, ratée, puisqu'il ne peut pas être là, sauf exception, au moment où la chose se passe. Alors évidemment, donc, on est dans une reconstitution au sens le plus fort du terme. Bien. Mais dans cette reconstitution, ce sont les vraies personnes qui jouent. Alors évidemment, là, quelque chose de troublant, parce que ce sont les vraies personnes, mais en fait, elles jouent leur propre rôle et elles le jouent après coup. Et donc, quelque chose d'une hybridation entre la dimension documentaire liée au fait que ce sont des vraies personnes, donc des non-comédiens qui sont filmés, ils s'hybrident avec le fait qu'ils jouent leur propre rôle, mais non seulement qu'ils jouent leur propre rôle, comme ça arrive beaucoup dans le cinéma documentaire en direct, si j'ose dire, mais qu'ils jouent leur propre rôle dans une fiction, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, dans une reconstitution. Voilà, donc ça c'est un premier point que je trouve extrêmement important et qui nous donne peut-être d'entrée de jeu le caractère indistinct, insoluble de la différence entre fiction documentaire, acteur non acteur, personnage et personne, tout ça se mêle. Hein. Et vous allez évidemment, vous avez bien compris que c'est un des sujets du film. Hein. Le vrai et le faux s'interpénètrent en quelque sorte. Et peut-être que le faux va être plus vrai que le vrai. Enfin, c'est même un des enjeux de cette histoire. Alors, on a ce premier niveau d'interpénétration, d'hybridation entre, disons, le versant ou le volet documentaire et le versant ou le volet fictionnel, reconstitution. Mais ça n'est pas tout. Et c'est là où peut-être il faut se poser beaucoup de questions. Vous avez remarqué que ces 15 premières minutes, ce pré-générique, fonctionne sur un principe de frustration. J'ai d'ailleurs appelé frustration le commentaire que j'en ai fait dans Ligne de temps. Principe de frustration extrêmement facile à décrire. Nous restons à l'extérieur de la maison. Voilà. nous restons à l'extérieur de la maison. C'est-à-dire que le journaliste, en un premier temps, nous raconte une histoire, qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire, que ça sera un article sensationnel. Le mot sensationnel doit revenir 5 ou 6 fois dans sa bouche. Bon, il raconte tout ça au chauffeur de taxi qui n'en a peut-être pas grand-chose à faire, mais enfin qui est là comme une sorte d'utilité, celui à qui on raconte les choses, c'est-à-dire au spectateur, en fait, à qui on les raconte. Donc, d'une certaine manière, le journaliste fait la propagande, fait la réclame de cette situation, la décrit comme une situation extraordinaire, exceptionnelle. C'est une fois seulement dans sa vie qu'un journaliste peut avoir affaire à une histoire comme celle-là, etc., etc. Résultat, nous arrivons au pied de cette maison, à la grille, à la porte fermée, et le journaliste disparaît à l'intérieur, et nous restons à l'extérieur, dans le taxi, où nous sommes là privés de ce qui se passe à l'intérieur, dans une situation donc de frustration, et nous en sommes privés pour assister à quoi ? À ce que j'appellerais le presque rien de la conversation entre le chauffeur de taxi et les deux soldats, qui est une conversation qui fait passer du temps, mais qui ne mène, si j'ose dire, nulle part. Et puis, ça n'est pas tout. Puisque vous avez vu que cette frustration est en quelque sorte redoublée, c'est-à-dire là, véritablement, assénée au spectateur avec une certaine cruauté, je dirais, puisque un monsieur que nous comprenons être le père de famille revient et va repartir avec les soldats, et le journaliste, qui n'est pas revenu, lui, et nous nous retrouvons seuls avec le chauffeur de taxi. C'est-à-dire que le champ des possibles se restreint de plus en plus et nous sommes toujours à l'extérieur. Nous n'entrons pas. Et donc, nous n'assistons pas au démasquage de l'imposteur. Nous savons qu'il y a un imposteur, nous savons qu'il va être arrêté, nous savons qu'un piège est tendu, nous savons tout ça, mais nous ne verrons pas cette scène. Voilà. Et en revanche, nous allons voir le chauffeur de taxi, lui-même privé de spectacle, puisqu'il y a ce plan incroyable où il monte sur la pointe des pieds pour essayer de voir par-dessus le mur d'enceinte. Bon, il ne voit rien. Et là, un des plans, je trouve, les plus stupéfiants de l'histoire du cinéma apparaît dans toute sa bêtise, en somme. C'est-à-dire que le chauffeur de taxi, désœuvré, récolte quelques fleurs fanées sur un tas d'ordures. Tout ça n'est pas absolument pas symbolique, bien sûr. Et il y a là une bombe insecticide verte que vous n'aurez pas pu ne pas voir. Et il l'a fait tomber. Et là, voilà, il y a ce plan incroyable qui dure 37 secondes. Où, alors qu'il se passe peut-être des choses fondamentales, importantes et brûlantes à l'intérieur de la maison, nous passons 37 secondes à regarder cette bombe qui descend la rue, comme ça, qui roule. C'est très beau d'ailleurs, avec un son magnifique. Enfin, pardon pour la copie, mais tout ça est très beau. Mais c'est le rien absolument. Voilà, donc 37 secondes où le rien prend la place du quelque chose et où nous sommes en effet privés, littéralement, hein, il faut le dire, de la représentation, du spectacle, de ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Nous sommes à l'extérieur. Voilà. Alors, déjà, s'il n'y avait pas d'autres suites, d'autres rebondissements, ce serait déjà une leçon. Hein, une leçon qui nous dit, bon, ben voilà, au fond, les médias, la presse, le journaliste, le journal nous racontent des choses. Et puis, le cinéma s'intéresse à autre chose, finalement. Le cinéma s'intéresse au temps qui passe, à l'avion qui vole dans le ciel, aux débris qui sont là, et à cette bombe insecticide qui roule toute seule dans la rue. Voilà. Donc, évidemment, ça serait, disons, une sorte de leçon de cinéma ironique, et extrêmement décalée, qui nous confronterait, au fond, à l'inanité, hein, ou à la vanité de notre appétit de sensation. Hein, le spectateur serait en quelque sorte puni d'avoir désiré être, je ne sais pas quoi, en voir des choses, assister à la scène cruciale. Enfin voilà, le grand guignol, disons, serait en quelque sorte congédié par ce plan de la bombe insecticide qui roule dans la rue. Voilà, ça serait ça s'il n'y avait pas quelque chose, un rebond qui allait intervenir quand même, je crois, si je me souviens bien, quelques 35 minutes plus tard. Alors, en plein procès, je reviendrai après sur le procès, un moment tout à fait stupéfiant, en plein procès, abruptement et à brûle-pourpoint, nous nous retrouvons à l'intérieur de la maison. Je dis nous nous retrouvons parce que nous y sommes entrés une fois. Vous vous en souvenez, c'est la séquence très, très courte d'ailleurs, où Kiarostami fait la connaissance du maître de maison. Et donc là, nous voyons ce salon pour la première fois. Mais on va y revenir, bien sûr, donc 35 minutes plus tard, avec la séquence de l'arrestation. Alors la séquence que nous n'avions pas vue. Alors voilà donc, non seulement, au fond, la scène dont nous avons été frustrés va arriver, mais elle arrive 35 minutes plus tard. Et là, en effet, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec Ligne de temps, là, en effet, les deux séquences sont quasiment synchronisées. Voilà, c'est-à-dire que pour ceux qui sont sensibles à la durée des plans, c'est-à-dire pour nous tous, nous avons constaté dans cette deuxième séquence, celle de l'arrestation, celle qui nous montre ce que nous n'avions pas vu la première fois, nous avons constaté que des durées un peu étranges, enfin des durées non narratives, disons, hein, des durées d'attente, de suspense, s'inscrivaient dans les plans. Beaucoup de plans d'attente, beaucoup de plans, des dialogues entre M. Mosseni et M. Hanka, un dialogue qui tourne un peu à vide, des raccords, ça j'avais beaucoup insisté là-dessus, des raccords qui sont des raccords sans ellipse, c'est-à-dire M. Hanka se lève dans un plan A, il amorce son mouvement, et dans le plan B, on le voit continuer son mouvement, aucune ellipse entre le plan A et le plan B, ce qui n'est plus du tout fréquent dans le cinéma depuis des années et des années, un principe de montage et de raccord qui a été remis en vigueur dans ce film par Kiarostami, mais qu'il n'utilise jamais dans ses autres films, et qui n'a comme justification ou sens que de montrer qu'il y a une continuité de la durée, et qu'on ne va pas faire d'ellipse, qu'on ne va pas raccourcir la séquence. Et donc cette séquence de l'attente dans le salon et du démasquage et de l'arrestation de Sabzian va durer globalement le même temps que la séquence initiale. Comme si à l'intérieur nous devions être dans une temporalité équivalente à celle de l'extérieur, alors que nous savons déjà tout, alors que tout ce qui est de l'ordre de l'information et tout ce qui est de l'ordre aussi de la dramatisation est déjà acquis. Alors se pose la question... Pourquoi ce jeu, pourquoi ce détachement de la séquence extérieure et de la séquence intérieure? On peut imaginer, et Dieu sait si 1000 autres cinéastes l'auraient fait, on aurait pu imaginer un entrelacement de l'intérieur et de l'extérieur. Certains plans à l'extérieur, d'autres à l'intérieur, dans une sorte d'alternance, hein, de va-et-vient. Mais ce n'est pas du tout ça qu'on a. On a tout à l'extérieur au début et tout à l'intérieur à la fin, puisque vous l'avez remarqué, ce qu'on voit de l'extérieur est toujours vu de l'intérieur, est toujours vu à travers le regard des personnages qui sont à l'intérieur. Alors donc, on peut se poser la question, pourquoi? Alors moi la réponse que j'ai, hein, il y en a peut-être d'autres, mais la réponse que j'ai, c'est que il était important que le spectateur fasse plus amplement connaissance avec Sabzian avant de le voir démasqué. Nous savons déjà qu'il est démasqué, mais nous ne l'avons pas vu. Nous ne pouvons pas le voir puisque nous sommes à l'extérieur et que ça se passe à l'intérieur. Et donc, nous avons de Sabzian, au fond, une idée indirecte. C'est ce que les autres en disent, qu'il est un escroc, que ceci, que cela, le journaliste, etc. Et il faut en effet la longue séquence du procès, magnifique d'ailleurs, où, et je le dis au passage, c'est un autre indice évidemment du caractère très très subtil de ce film, bon c'est un procès, mais c'est un procès de cinéma, ou c'est pas un procès de cinéma, ou c'est un peu des deux. La question est posée complètement, il y a ce moment incroyable, où Kiarostami, qu'on ne voit pas mais qu'on entend, demande au Hadj, est-ce qu'on peut avancer la date du procès? Et le Hadj dit, ben non, je crois que ce n'est pas possible. Mais pourquoi? La réponse est formidable, parce que ça arrange notre plan de tournage. Bon, voilà, donc on est là dans une sorte d'entre-deux, hein, entre, disons, la réalité référentielle qui serait la justice iranienne s'intéressant à ce cas, et puis une autre réalité qui est celle d'un film en train de se faire. Et d'ailleurs, vous vous en souvenez aussi, la séquence du procès commence par un clap. La première chose qu'on voit, c'est un clap avec écrit scène 1, plan 1, etc. Donc, et puis alors surtout, c'est ça que je veux dire, surtout, bah, que se passe-t-il dans ce procès ? Bah, le procès, au fond, est mené par deux juges, ou deux, le juge, bien sûr, le hadj assis derrière son bureau, mais qui a Rostami. Et en fait, il y a une sorte de double dialogue ou de double interrogatoire. Parfois, le juge interroge Sabziane et parfois, Kiarostami interroge Sabziane. Et un entremêlement des deux, difficile à discerner. Le programme que Kiarostami présente à Sabziane au début du procès en lui disant « voilà, il y a deux caméras, une va filmer en plan large et ça sera le procès, et l'autre va filmer en gros plan, en fait elle est pour toi et tu te tourneras vers elle quand tu auras des choses à dire bon, », ce programme est évidemment absolument fallacieux puisqu'il n'est aucunement tenu et qu'il y a toutes sortes de plans, des gros plans, et essentiellement des gros plans, et que, voilà, on ne sait plus quand le juge, le vrai juge, si j'ose dire, interroge Sabziane, et bien Sabziane est filmé en gros plan par la caméra qui est censée filmer au contraire les moments où il se tourne vers Kiarostami pour lui parler. Donc disons qu'il y a là un dérèglement. On pose une règle et puis ensuite on dérègle. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que ce dérèglement nous montre à quel point les deux sphères ou les deux registres de la justice, donc du réel, de la réalité, tout ce qu'on voudra, et puis du cinéma, donc de l'artifice, du simulacre, du jeu, s'interpénètrent, hein, échangent leur valeur et leur qualité. Bon, c'est évidemment la fable de ce film, vous l'avez compris. Voilà. Mais alors, ce que je voudrais remettre en avant maintenant, c'est bien que si les deux séquences, la séquence du pré-générique et la séquence du démasquage et de l'arrestation sont séparées à ce point, ben c'est pour cette raison même que pendant le procès, nous allons avoir affaire à quelque chose qui pourrait s'appeler la vérité de Sabziane, ou en tout cas l'amorce de la vérité de Sabziane. Quelque chose se dit là qui peut nous toucher, enfin qui moi en tout cas me touche. Je vous rappelle que Sabziane développe une véritable esthétique. En gros, il explique ce que c'est que l'art, ce que c'est que l'artiste, ce que c'est que le travail de l'artiste. C'est très beau ce qu'il dit. En gros, l'artiste est là pour représenter, faire partager la souffrance des humbles. Bon, il a ces phrases extraordinaires. Enfin, je veux dire, il devient une sorte de, oui, c'est ça, de théoricien de l'esthétique sociale qui met en place un discours qui probablement et même certainement excède à la fois celui de Bakbalbaf et celui de Kiarostami. Donc il a un point d'intersection où il dit la vérité d'un certain rapport au cinéma. Alors évidemment, une vérité qui ne peut que nous concerner, nous spectateurs, puisque je crois que dans ce que dit Sabziane, il y a une forte part de notre propre motivation ou de notre propre désir par rapport au cinéma. Bien sûr que l'accent mis sur la souffrance des faibles, bah, c'est une dimension que le cinéma a apportée à grande intensité. Bon, ne serait-ce que parce que les corps des faibles sont filmés et que ce simple fait leur donne une force, un poids, une intensité très grande. Le corps et le visage de Sabziane nous disent quelque chose, au-delà ou en deçà ou en parallèle avec sa parole, son discours, son raisonnement. Voilà. Donc là, évidemment, le cinéma prend parti. Hein, moi, j'ai toujours pensé que le cinéma prenait parti du côté des faibles, dans la mesure où, avec les faibles, je crois que Sabziane le dit lui-même. Hein, il dit qu'au fond, il s'agit aussi au cinéma de compenser ou de corriger la violence des puissants, la violence de ceux qui dominent bien. Alors, faire connaissance avec Sabziane pendant ce procès, ben, c'est finalement, d'une certaine manière, basculer de son côté, être touché par lui, et commencer, alors ça je parle aussi en mon nom bien sûr, mais commencer à haïr cette famille. hein, qui devient de plus en plus détestable avec ses deux fils qui veulent faire de l'art mais qui sont assez désagréables, avec ce père rusé, matois. Je vous rappelle que le scénario que Sabzian, le film que Sabzian voulait tourner dans cette maison, s'intitulait La maison de l'araignée, comme par hasard. Et donc, je crois que quelque chose d'une empathie, sinon d'une sympathie, se met en place pour ce personnage dont on voit, un, qu'il souffre, deux, qu'il est dans ce qu'on pourrait appeler une sincérité paradoxale, parce que c'est la sincérité du mensonge ou la sincérité de l'imposture, mais le fait qu'elle soit justement paradoxale ne lui donne que plus de poids ou la rend encore à la fois plus fragile et plus troublante. Bien. Et donc, nous faisons connaissance. Et quand nous avons fait connaissance, eh bien, évidemment, on va voir maintenant la scène du démasquage, mais on va la voir du côté de Sabzian. Et toute l'opération du film se fonde sur ce transfert, au fond, de côté. Au départ, ben, on n'a aucune raison de s'intéresser autrement que le journaliste à cette situation et ce personnage. On peut considérer que, ben oui, c'est un escroc ou un imposteur. Beaucoup d'indices sont donnés de manière très subtile. Bon, le fait qu'il visite toutes les pièces de la maison, il se justifiera ensuite en disant qu'il est là pour faire des repérages et que donc il faut étudier tous les angles de prise de vue, etc. Donc il y a tout un jeu là-dessus que je ne vais pas détailler. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand arrive la séquence du démasquage et de l'arrestation et que donc nous sommes passés à l'intérieur de la maison, alors ça n'est plus la même chose. Alors, il me semble que la mise en scène, et précisément le fait que nous ayons pu, pendant ces 35 minutes ou ces 30 minutes, nous approcher davantage et entrer en résonance davantage avec ce personnage extrêmement trouble, ambigu et complexe, mais aussi beau et généreux, alors fait que nous ne pouvons plus voir cette arrestation, cette séance de démasquage, comme quelque chose qui va de soi. Nous ne pouvons le prendre que comme quelque chose d'extrêmement problématique. Et c'est à ce moment-là, je crois, que le spectateur bascule et que nous commençons à juger le père, par exemple. Il y a ce très beau dialogue, magnifique, où le père tente de piéger Sabzian en lui faisant parler de nature, de naturel. Et où Sabzian dit des choses magnifiques. Il dit que oui, en effet, la nature est comme un miroir dans lequel on doit aller se reconnaître, vérifier sa vérité, en somme. Bon. Et le père, lui, joue, si j'ose dire, grossier, quoi. Il est toujours dans l'allusion, dans une sorte de provocation. Et là, une opposition se manifeste, telle que Kiarostami l'a traité, bien entendu. Et du coup, bien sûr, bah, celui qui a la grâce, c'est incontestablement Sabzian. Celui qui tient un discours fort sur l'art, sur la vie, sur la mort, il parle de ça, il dit on n'a que peu de temps, il faut donc travailler, etc. C'est Sabzian. Le père, là, est, je dirais, caricaturalement du côté de la bourgeoisie. Et Sabzian, il est plutôt du côté de la poésie, voilà, voire même de la mystique, comme le père lui le suggère à un moment. Donc, toute cette séquence de l'arrestation, nous ne pouvons pas ne pas la voir d'une certaine manière, du point de vue ou en tout cas en accord ou en proximité avec l'imposteur. Voilà. C'est toute cette bascule qui est possible, qui est praticable, parce que nous avons d'une part été frustrés de l'arrestation dans la première séquence et d'autre part, nous sommes entrés en relation ou en résonance avec Sabzian. Alors voilà, donc, on pourrait d'une autre manière dire que, au fond, c'est une leçon de cinéma qui nous est donnée. Voilà. C'est parce que nous n'avons pas pu voir cette arrestation de prime abord, au premier moment, que nous allons pouvoir la voir vraiment, la voir telle qu'elle est, c'est-à-dire la voir en démasquant, non pas l'imposteur, dont nous savons qu'il sera démasqué ou qu'il a été démasqué, mais la voir, au contraire, en voyant à quel point la ruse de la famille est grossière et à quel point ces personnages, disons, la mère mise à part, sont relativement antipathiques. Alors, je voudrais encore une fois revenir sur ce qui se produit au milieu de tout ça. C'est que la question « qui est constamment posée et n'a plus aucune réponse. Qui est qui ? L'un et l'autre. L'autre et l'un. La mère, dans cette séquence, ce flashback magnifique du bus où elle rencontre pour la première fois le vrai Sabzian et le faux Mac Balbaf à la fois, dans cette séquence étonnante, la mère est une actrice formidable. Bon, alors, elle se révèle, je dirais, une comédienne de talent, parce que ses gros plans sur elle, ses regards qu'elle donne, elle joue véritablement, non seulement le personnage, mais la situation, mais la relation. Elle est entrée dans un scénario, en quelque sorte, et elle le joue à fond. Alors voilà qui est extrêmement troublant, parce que c'est une vraie mère de famille, mais là, elle joue. Alors, où est le centre de gravité, s'il y en a un, sur quoi peut-on s'appuyer d'une certaine manière? Ben, sur pas grand-chose. Voilà. Alors là, c'est ça qui est intéressant. La fable qui nous est racontée serait celle-là. Je le disais en introduction, nous sommes arrivés dans un moment historique, dans un moment du monde où les seuls rapports vrais passent par le jeu, par le simulacre, voire par l'imposture, voire par le mensonge, et que c'est de ce côté-là que les êtres peuvent se déployer, autrement dit, du côté de l'imaginaire, les êtres peuvent se déployer, du côté du réel, ils sont plutôt repliés les uns sur les autres, d'une manière assez peu désirable, en vérité. Le désir est indéniablement du côté de Sabzian. Il n'est pas du côté du père, il n'est pas du côté des fils. Voilà, d'ailleurs, il y a cette phrase terrible que dit Sabzian dans la maison, quand il dit, voilà, si j'avais senti leur enthousiasme se prolonger, j'aurais travaillé jour et nuit, mais je sens qu'ils ont molli, quoi. Ils n'y sont plus. Voilà, donc tout ça, c'est des leçons qui nous sont données d'une certaine manière, mais qui nous sont données pourquoi? Ben, précisément pour que nous soyons pris dans ce tourniquet, que nous comprenions que ce que nous venons chercher au cinéma, c'est sans doute cette irrésolution de l'identité, cette insuffisance de la ressemblance, le fait que une chose n'est pas cette chose tout à fait, et qu'elle est en partie entamée par autre chose. Voilà. Et c'est cette crise des États, cette crise des statuts, cette crise des places que le cinéma nous donne l'occasion d'expérimenter à notre tour en précisément s'en prenant ou en attaquant notre place de spectateur. Et là, évidemment, c'est le cas, puisque j'ai donné les deux grands exemples, à la fin et au début, où le spectateur est littéralement pris en défaut, quoi. Ce qui lui est imposé, c'est la frustration, c'est le non-accomplissement de son désir de voir et d'entendre. Autrement dit, on pourrait dire ça autrement, là, pour ce qui est du voir, en tout cas, la pulsion scopique qui nous anime tous, spectateurs de cinéma, la pulsion scopique est brimée dans ce film. Voilà, elle est mise à mal. Voilà. Il s'agit, comme souvent c'est le cas dans le grand cinéma, d'une rééducation du spectateur. On part toujours de ce principe, au fond, pour voir vraiment et pour entendre vraiment, allons au cinéma, parce que dans le reste de nos activités, nous ne voyons rien et nous n'entendons rien. Voilà. Et c'est au cinéma qu'on peut commencer à voir et à entendre. Mais pour commencer à voir et entendre, il faut passer, probablement, certainement, par cette phase de perte, hein, d'incapacité, voilà, où les choses ne se donnent pas à nous. Et c'est dans le refus des choses, des images, des sons de se donner à nous que quelque chose se construit pour nous, sans doute, qui nous permet de voir et d'entendre. Alors je voudrais maintenant, je n'ai pas très bien compris ce que Thibault m'a dit tout à l'heure en aparté, vu qu'il a parlé tellement mal. Oui. Ah, d'accord, ok. Alors, non, mais que c'est très drôle. Voilà, c'est comme dans le film de Kiarostami, mais à une échelle évidemment infiniment moins intéressante. Non, mon ordinateur s'est éteint. Il y a un mot de passe que évidemment personne n'avait. Et que donc j'ai glissé à l'oreille de Thibaut pour que personne n'entende, bien sûr. Donc, si tout va bien, ça va remarcher et on pourra voir un petit bout de ce travail. Mais bon, c'est ceux qui sont curieux de ce film, je vous invite à aller sur le site, parce que j'ai dû, bon, je n'en tire aucune gloire particulière, mais enfin j'ai dû écrire entre 50 et 70 pages juste pour analyser les deux séquences dont j'ai parlé là tout à l'heure. Et voilà, et c'est une analyse pas tout à fait plan par plan, mais petit bloc, fragment par fragment, et qui permet, me semble-t-il, en tout cas c'est ce que j'essayais de faire, d'entrer dans cette logique très particulière où les choses sont à la fois amenées et retirées, dites et non dites, voilà, qui est le vrai travail du cinéma. Je tiens ce film pour l'un des plus importants de la deuxième moitié du XXe siècle, parce que je crois qu'il nous dit quelque chose sur notre rapport au cinéma. Alors, est-ce que c'est parti ? Non, pas encore. Oui, on a tout préparé, c'était pas comme d'habitude. Et puis, le micro-cravate, c'est abîmé au dernier moment. Non, il y a beaucoup de choses à dire, je vais continuer à parler, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce film qui sont particulièrement réjouissantes. Prenons un exemple. Quand Kiarostami, qu'on ne voit toujours pas, va au début, après le pré-générique, dans la caserne pour demander au capitaine... Bon, vous avez remarqué comment tout ça est filmé, c'est quand même assez extraordinaire. Bon, d'abord, le rapport entre cinéma et armée est un rapport... totalement libre, alors il n'y a vraiment aucun problème. Je ne sais pas si c'est comme ça tout le temps en Iran, si c'est ça, alors vive l'armée iranienne, parce que c'est, ou vive la justice iranienne, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Bon, mais ce qui est tout à fait drôle, c'est que au moment où le soldat qui a participé à l'arrestation de Sabzian vient, parce que le capitaine l'a appelé et lui a posé une question, vous voyez tous les soldats derrière lui qui viennent se cadrer. Bon, comme ça arrive, évidemment, dès qu'on met une caméra quelque part, bon, beaucoup de gens viennent se cadrer parce qu'ils pensent qu'ils sont mieux dans l'image que hors de l'image. Et donc, voilà. Alors, bon, des petites choses comme ça, mais il y en a foule dans ce film. Et ce sont des indices qui nous alertent, me semble-t-il, sur la nature ludique, ironique et ludique de l'entreprise. Et si c'est ironique et ludique, ça veut dire que, d'une certaine façon, un jeu s'établit ou avec le spectateur qui est de lui dire « ne sois pas totalement dupe ». Voilà. Que quelque chose chez toi résiste au désir, au fond, d'être dupe. Nous venons au cinéma pour être dupés, mais voilà, dans un certain nombre de films importants, on est dupé, mais on nous dit en même temps de ne pas totalement l'être, et donc de sortir du piège, en quelque sorte. C'est évidemment impossible de sortir du piège, et ce film le démontre entièrement, mais néanmoins, nous tombons dans le piège avec un petit... voilà, ça marche, génial. Un petit sentiment quand même d'avoir compris de quoi il s'agissait. Alors, je vais vous... Alors voilà, donc là, si vous voulez, voyez, il y a écrit bout à bout. Ça, c'est la séquence pré-générique, et ça, c'est la séquence qui vient 35 minutes plus tard. Et dans ce logiciel, on peut faire une chose qui est assez difficile à faire dans Final Cut, même impossible, c'est superposer les deux séquences et les faire dérouler en parallèle. Alors... Pour faire cela, nous les avons synchronisés sur le coup de sonnette qu'on entend évidemment à l'extérieur et à l'intérieur. Et voilà, et ça n'est plus tout à fait synchrone. Voilà.
Salam alaykoum. Salam alaykoum. Salam alaykoum.
Voilà, donc bon, on a sauté dans une autre synchronisation qui est l'arrivée des soldats. quand même formidable. Et voilà. Bon, on peut arrêter là. Peut-être. Voilà, merci pour cette brillante démonstration. Donc, bon, voilà, il ne s'agit pas évidemment d'imaginer qu'on va découvrir des choses extraordinaires. Je voulais simplement vous remontrer ces bouts de séquence pour qu'on voit bien à quel point on a affaire à un parti pris radical de dédramatisation dans la première séquence près des génériques, et évidemment qui vient en quelque sorte être contrarié ou contredit par la dramatisation en revanche de la deuxième séquence. Merci Thibault, je n'avais pas compris du tout l'histoire du mot de passe, pardon. Voilà. Donc l'intérêt bien sûr de travailler sur un logiciel de ce type, il y en a d'autres, hein, mais celui-là c'est celui qu'on a utilisé, donc l'intérêt c'est de, au fond, de pouvoir entrer, je le disais, dans les articulations fines du film. Par exemple, dans le même travail, j'ai pu analyser une série de raccords. Alors les raccords, vous le savez, ça dure même pas une seconde. Un raccord, c'est quelques images. Et pouvoir poser un raccord, le voir fonctionner, le refaire fonctionner comme ça, le nombre de fois qu'il faut pour pouvoir l'analyser, c'est extrêmement précieux. Et il y a une partie de mon travail qui est donc l'analyse d'une série de raccords. Vous en avez vu quelques-uns, là. Vous avez vu les raccords dans le mouvement sans ellipse qui caractérise cette sorte de dilatation du temps quand on est dans le salon de la famille. Mais on a vu aussi d'autres exemples de raccords, ceux-là avec une brève ellipse, mais qui dramatise bien sûr. C'est les moments où le père d'abord, ensuite Sabzian et ensuite M. Mosseni s'approchent de la baie vitrée qui est occultée par un rideau blanc, et où d'un plan large qui cadre presque la totalité de cet axe du salon, on passe à un très gros plan, hein. Alors là, il y a une ellipse, parce que évidemment, il y a un bout du mouvement du corps qui est ellipsé, mais néanmoins, on est dans une répétition du même plan. Et c'est très important, pourquoi ? Parce que ce qui va se produire, c'est que la scène de l'arrivée des soldats, nous allons la voir à travers le regard de Sabzian, dans une... Tout ce moment, je vous invite à vous reporter au film, mais tout ce moment magnifique où Sabzian attend d'être arrêté, où se met en place une sorte de toile d'araignée, effectivement, avec un mouvement de la mère, un mouvement du fils, un mouvement du père et du journaliste, et où M. Mosseni lui-même va se lever, va aller vers la baie vitrée. Donc on est dans un moment tout à fait incroyable où il me semble ne pas me tromper en affirmant que le spectateur est passé à ce moment-là dans la peau, littéralement, de Sabzian et continue à suivre la situation de l'intérieur du regard de Sabzian. Alors évidemment, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Nous étions privés du spectacle de son arrestation et voilà maintenant que nous la vivons, en gros, de l'intérieur de son point de vue, de l'intérieur de sa place. C'est un saut considérable. Le film nous invite à faire ce saut considérable. Voilà, si vous avez des questions, je serai... heureux de répondre si j'y arrive. Oui ?
Moi, je trouve que Kiarostami quand même, est-il si anticonformiste que ça? Parce que il donne une image alors formidable d'une justice qui pardonne, d'une famille qui s'est fait un peu arnaquer qui pardonne. L'armée, il y a un soldat qui dit mais pff, il semblait pas du tout être un quelqu'un de méchant. Enfin, donc finalement, c'est une image idyllique d'une société que donne le cinéaste. Et
oui, non, mais je suis assez d'accord avec vous. Mais bon, le cinéma, c'est cette idylle-là que vous désignez. On peut dire que c'est ça qui est attendu, qui est désiré, qui est espéré.
C'est vrai, mais est-ce la réalité? Bon,
Quand le cinéma se mêle au monde, hein, alors effectivement, il transforme les choses peut-être désagréables ou pénibles en choses moins pénibles. Enfin, j'espère en tout cas qu'il sert à ça. Donc moi, je suis tout à fait partisan de transformer la planète entière en un vaste plateau de tournage. On est déjà dans le spectacle, vous me direz. Ça ne ferait qu'aggraver les choses. Mais peut-être que s'il y avait un peu plus de cinéma dans le spectacle, ça irait mieux. Voilà, ce qui manque, c'est le cinéma, c'est pas le spectacle. Non, non, mais je blague. Mais voilà, l'idée que pour rencontrer l'autre, il n'y a plus que ce chemin extrêmement complexe qui est celui du cinéma, ce labyrinthe qui est celui du cinéma. Parce que l'autre est inaccessible, est inapprochable, est inabordable. Je suis frappé dans ce film par les murs, les murs, les portes blindées. C'est incroyable, on se croirait à Paris, je veux dire. J'imaginais pas Téhéran comme ça. Donc se dit quelque chose du fait que oui, les classes sont séparées radicalement, il y a les riches et les pauvres, etc., etc., toutes choses qui existent partout, y compris là, mais que le cinéma, d'une certaine manière, va désarticuler, va non pas abolir, mais en tout cas déplacer. Voilà, et c'est la phrase du maître de maison à la fin nous dit ça, nous sommes fiers de vous avoir connu. Voilà, il n'aurait jamais connu s'il n'y avait pas eu cette imposture, elle-même liée à la pénétration incroyable du cinéma dans la société iranienne et au fait qu'un film est venu s'ajouter dans une sorte de mise en abîme au deuxième ou au troisième degré à l'imposture elle-même liée au cinéma. Voilà, donc là vous comprenez bien que l'idée du monde qui nous est présentée, c'est une idée du monde dans lequel le cinéma est partie prenante, est acteur. Voilà. Et peut-être que la vérité, c'est ce que le documentaire nous apprend aujourd'hui, peut-être que la vérité est le destin d'une partie de l'humanité, comme le disait Walter Benjamin il y a fort longtemps, hein, c'est de jouer dans des films. C'est de devenir acteur au cinéma. Peut-être que les ouvriers qui n'ont plus de travail sont heureux de jouer dans les films de Marcel Trias. Ils seraient peut-être plus malheureux s'il n'y avait pas le cinéma qui vienne les récupérer au moment où les usines ferment. Voyez. Donc comprenons bien que les choses se tiennent. Alors je ne dis pas ça pour résoudre les problèmes de l'humanité, certes, mais je dirais qu'il y a là une compensation imaginaire qui serait sot d'ignorer, et que l'idée que le monde est enchanté par le cinéma, cette idée est peut-être plus vraie aujourd'hui qu'elle n'était au temps de l'usine à rêve. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pourquoi elle est plus vraie aujourd'hui? Mais tout simplement parce que le cinéma est plus vieux, qu'il a plus de durée, qu'il a travaillé davantage, qu'il a pétri davantage la pâte du monde, et qu'il en est sorti quelque chose de plus cinématographique que ça n'était le cas au moment où les Frères Lumière tournaient et au moment où Hollywood battait son plein. Voilà. C'est cette dimension-là que je trouve ce film nous raconte ça. Il nous dit comment se passer du cinéma. On ne peut plus. La justice ne peut pas s'en passer, sinon elle ne connaîtrait pas la vérité. Il faut quand même que le cinéma s'en mêle pour que Sabzian dise des choses essentielles. S'il n'y avait pas de cinéma, ça ne se dirait pas, etc. Enfin voilà, donc d'une certaine façon, le monde se plie, hein, sous la, je dirais pas la pression, mais enfin sous l'effet du cinéma qui l'oblige à se replacer ou à se déplacer. Et je trouve ça juste par rapport à ce que nous vivons ici même. Enfin, ici même, je veux dire, dans cette partie non-iranienne du monde. Oui, pardon. Là-bas, à l'autre bout. Bon, alors.
Oui, peut-être une question un peu décalée, parce que j'entends bien dans toute cette analyse quelque chose qui renvoie depuis longtemps aussi à votre travail. Est-ce que c'est cette vision du film du Kiarostami, parce que sur la chronologie je suis un tout petit peu incertain, qui fait écho au travail que vous aviez fait sur Naissance d'un hôpital. Dans la mesure où il y a un principe qui me semble en partie comparable, c'est-à-dire faire jouer à quelqu'un son rôle,
oui,
sur un décalage, alors un décalage temporel nettement plus grand, je crois, que ce qui a lieu dans le film de Kiarostami. Mais,
oui, le film de Kiarostami est plus
proche. Donc apparemment, vu votre étonnement, je me dis que non, il n'y a pas de rapport.
Non, mais le rapport arrive après coup, comme souvent c'est le cas. Avant, il n'y en avait pas. Non, le film Naissance en hôpital était tourné en 91, si je me souviens bien. Et donc, je n'avais pas vu le film de Kiarostami à ce moment-là, bien sûr, puisque je ne l'ai vu que 10 ans plus tard. C'est un film qui est sorti très tard en France, et qui est sorti brièvement d'ailleurs. Bon, et on n'arrive plus à trouver de copie film, c'est pourquoi on vous a passé cette copie vidéo. Donc, je vais essayer de vous répondre. J'ai été dans les quelques films documentaires que j'ai pu faire, notamment Naissance dans l'hôpital, mais d'autres aussi, La vraie vie dans les bureaux par exemple, j'ai été toujours frappé, où on ne va pas se quitter comme ça, exemple qui était encore antérieur, j'ai toujours été frappé par, ne disons pas la capacité, disons le désir profond, le désir de cinéma, le désir de jouer, le désir d'être un autre en jouant ou d'être soi-même en jouant, en étant un autre, etc., que manifestaient des gens de tous les jours, des gens qu'on croise dans la rue, les gens qu'on rencontre. Alors bon, Riboulet est certes un grand architecte et donc un personnage en partie hors du commun, et d'un autre côté, c'est un homme qui travaille à sa table comme beaucoup d'autres. Voilà, et ben le désir, voilà, ce désir de jouer, j'affirme d'une manière évidemment totalement utopiste qu'il est partout, voilà, qu'il est partout et tout le temps, et que le cinéma, d'une certaine façon, en procède. C'est pas que le cinéma l'ait animé, ce désir, c'est que au contraire, ce désir peut-être est une des raisons qui ont fait qu'on s'est mis un jour à rêver au cinéma. Voilà. Parce que, évidemment, il y a quelque chose qui... Les enfants, enfin, le jeu. Revenons à l'enfance 3 minutes. Être un autre, faire semblant d'être un autre. Mais on a été construit comme ça, enfin, il me semble, nous tous. Enfin, je veux dire, dans les relations même que nous avons avec les adultes quand nous sommes enfants ou avec nos parents, ben, il y a ça qui est en jeu. Oui, il y a ce dédoublement, ce jeu avec des personnalités, cette fragilité des statuts ou des identités, tout ça nous l'avons expérimenté et nous le retrouvons, me semble-t-il, très souvent au cinéma. Alors c'est vrai que dans ce film, c'est paroxystique d'une certaine manière, on va plus loin, mais en tout cas il y a cette idée que filmer dédouble l'être filmé, voilà, quel qu'il soit, ça le dédouble. Alors évidemment il faut une énorme capacité de refoulement aux comédiens pour éviter d'être dédoublé par le fait d'être filmé. Alors peut-être que ce qui renforce cette capacité de refoulement chez le comédien professionnel, c'est le fait qu'il fasse un film après l'autre et que donc dans sa vie, il en fait, je ne sais pas, 20, 30, 40. Bon, alors que la plupart des gens qu'on filme, et d'ailleurs cette famille, et d'ailleurs Sabzian lui-même, sont filmés en tout et pour tout une fois dans leur vie. Quoi. Voilà, c'est extrêmement rare que un acteur documentaire devienne un comédien de métier. Bon, ça peut arriver, mais c'est très rare. La plupart du temps, c'est une fois pour toutes. Alors si c'est une fois pour toutes, alors du coup, l'opération de clivage produite par le geste cinématographique est radicale. Voilà, quelque chose est divisé, voilà, divisé vraiment. Mais c'est une expérience que nous avons d'une certaine manière, puisque nous ne sommes pas capables de nous identifier nous-mêmes dans le regard de l'autre. Hein, il y a toujours un trouble de la reconnaissance qui est manifeste. Donc je dis tout ça pour répondre un peu de loin, mais à la remarque que vous avez faite. Oui, le geste cinématographique documentaire, en tout cas, produit cet effet. Comment faire? Je me souviens, Riboulet a été un acteur absolument parfait. C'est-à-dire que tout ce qu'on lui a demandé, il l'a fait. Et il l'a fait dans une situation de comédien. C'est-à-dire que nous avons tourné, non pas dans son atelier, mais dans un autre atelier, puisque lui-même continuait de travailler sur ses projets et maquettes pendant le tournage. Donc, disons, de 6 heures du soir à 8 heures du matin, il travaillait sur ses chantiers, ses projets dans son cabinet d'architecte, et de 8h du matin à 6h du soir, il venait dans un autre atelier que nous l'avions installé avec ses tables, ses règles, etc. Et là, il faisait semblant d'être chez lui. Donc, il était vraiment dans une position de comédien. Il jouait le jeu, tout simplement. Voilà. Et il le jouait d'autant plus que, pour ceux qui ont vu le film, vous savez que j'ai maintenu un suspens sur la date de la reconstitution, la date de la fiction. J'ai fait comme si, fiction, faire comme si égale fiction, j'ai fait comme si nous avions tourné pendant que Riboulet préparait son concours, le concours qui a donné lieu à la construction de l'hôpital Robert Debré à Paris. Nous étions au présent de l'écriture de ses notes. Il écrivait aujourd'hui 20 janvier, etc. Et en fait, le film a été tourné 8 ans après. L'hôpital était déjà construit et nous avons été déterminés à ne pas le filmer, cet hôpital, parce qu'il était déjà construit et qu'il fallait que la fiction de ce film documentaire nous raconte que l'hôpital n'était pas encore construit et que peut-être même il ne le serait jamais, parce que Riboulet, dans le film, aurait pu perdre le concours. c'est censé se passer pendant le concours. Voilà, donc Riboulet a joué tout ça. Alors, bien sûr qu'il l'a joué en s'appuyant, si j'ose dire, sur son travail, sa vie, son œuvre. Quand Riboulet dessine, il ne fait pas semblant de dessiner, il dessine vraiment. Bon, quand il prend des cotes, qu'il mesure des trucs et tout, tout ça, c'est du vrai, si j'ose dire. C'est de l'authentique. Néanmoins, c'est dans une situation totalement fictive. Voilà. Alors, acceptons, même si c'est difficile, de considérer que ce qui se passe au cinéma, que ce soit au moment du tournage ou que ce soit ensuite dans la salle où le film est projeté, ce qui se passe au cinéma, c'est précisément ce moment où vérité et mensonge, fiction et réalité, simulacre et authenticité ou première foi, se confondent en partie, en tout cas se recroisent. Voilà. Et je crois que c'est ça que nous cherchons. Voilà. Nous cherchons cette chance-là que nous n'avons plus dans la vie réelle, que nous n'avons plus. La chance que, oui, les contraires coïncident à un moment ou à un autre, que l'impossible devienne possible, que l'irréel devienne réel, que le faux devienne vrai. Bon, la dernière partie de l'interrogatoire entretien que Kiarostami fait de Sabziane est absolument bouleversante. Quand il lui dit quel rôle aimerais-tu jouer maintenant ? Et que Sabziane dit mon propre rôle. Bon, on est là dans une sorte de chemin vers une sorte de vérité de l'être qui passe à travers le simulacre. Et c'est ça qui est tout à fait formidable. Donc le cinéma permet ça. Enfin, non seulement il le permet, mais il ne peut faire que ça d'une certaine manière. Et tous ceux qui vous disent le contraire mentent. Bon, je vous propose peut-être de vous arrêter là. Et je vous remercie.